Allô la Terre, allô la Terre. Ici Radio Montréal. Alors, bonjour, rebonjour Dominique Crotté.
Bonjour Nicolas.
Alors, Vélib souffle sa première chandelle.
Oui, le vélo en libre-service, le service de vélo en libre-service de Paris aura un an demain, donc un jour seulement après la fête nationale des Français. Je vais vous en parler, ça va être mon sujet principal aujourd'hui, mais je vais commencer avec quelques actualités du monde des cyclistes, urbain montréalais. Donc, la Sûreté du Québec a débuté la semaine dernière sa troisième campagne de sensibilisation sur le pont Jacques-Cartier. Le but est de sensibiliser, au moyen de contraventions, il faut le dire, les cyclistes qui circulent sur le pont et qui ne respectent pas les panneaux de signalisation. Donc, il y a un arrêt obligatoire pour les cyclistes à la hauteur de l'île Sainte-Hélène, où il y a un embranchement, et puis les cyclistes doivent descendre de leur vélo pour traverser cette intersection. Je donne une petite idée des coûts qui sont reliés aux contraventions. Donc, les cyclistes qui ne descendent pas leur bicyclette sont passibles d'une amende totalisant 32 $ avec les frais. Ceux qui omettent de respecter l'arrêt obligatoire s'exposent à payer une amende de 52 $ avec les frais et avoir 3 points d'inaptitude s'inscrire à leur dossier de conducteur. Donc, c'est pas un montant si énorme, mais les conséquences peuvent être fâcheuses. Donc, il y a un arrêt obligatoire à cet endroit pour la sécurité des piétons et des cyclistes parce que les automobilistes qui empruntent la sortie de l'île Sainte-Hélène, eux, n'ont pas d'arrêt obligatoire à faire. C'est quand même étonnant que les automobilistes aient priorité à cet endroit-là. Pourquoi en ville les piétons et puis les cyclistes ont priorité, mais sur le pont, hop, là, ça change, on se retrouve dans une autre dimension, puis les automobilistes ont plus de droits et puis les règles changent.
Les autorités nous répètent toujours et sans cesse le mot magique qui commence par F, fluidité.
Oui. Donc, il serait peut-être temps de penser aussi à la fluidité
des cyclistes.
Et oui, et même des piétons, si on veut encourager les gens à marcher un petit peu plus et à se déplacer à bicyclette. Donc, la question que je lance justement aux autorités est la suivante. Pourrait-on réaménager cet espace et la signalisation afin que les piétons et les cyclistes aient priorité comme sur l'île de Montréal? En attendant, mais faites quand même attention parce que c'est une intersection qui est dangereuse. À chaque année, il y a plusieurs accidents qui arrivent à cet endroit-là. Et on le sait, les cyclistes n'en sortent jamais gagnants ou à peu près. Je vous rappelle aussi que circuler avec un baladeur, c'est un geste passible d'une amende de 52 $. Et le Journal de Montréal rapporte qu'un cycliste qui a écopé une amende totale de 438 $, contravention
émise. Combien de baladeurs avait-il sur les oreilles?
C'est à se poser la question. Selon le journal, le cycliste a omis de faire son arrêt obligatoire. Il n'est pas descendu son vélo avant de traverser. Il conduisait avec un vélo sans frein et il y avait des écouteurs sur les oreilles. Donc, surveillez vos portefeuilles, ça peut vous coûter cher.
Mais lui, il faut dire qu'il cherchait, là.
Presque, on peut le croire. Maintenant, je vous parle d'un thème un petit peu plus léger, le thème des vacances. Donc, il y a une exposition sur le vélo à Trois-Rivières. Donc, raison de plus pour rouler jusqu'à Trois-Rivières. On peut peut-être même emprunter la route verte pour y aller, pour voir l'exposition Accro du vélo. La petite reine tient la vedette jusqu'au 29 mars 2009. C'est le Musée québécois de la culture populaire de Trois-Rivières qui propose cette exposition sur le vélo. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. On peut retracer l'évolution du vélo grâce à une collection de bicyclettes anciennes qui proviennent du Musée des sciences et de la technologie du Canada. La mécanique du vélo est explorée sous toutes ses facettes dans l'atelier chez Pépé. Il y a des notions de physique appliquées à la bicyclette qui sont démontrées par des modules interactifs. Il y a aussi des adeptes de cyclotourisme qui témoignent de leur expédition au Québec et puis à travers le monde. Il y a un jeu questionnaire qui permet aux cyclistes de mesurer justement leur connaissance en sécurité routière. Donc, le code de la sécurité routière est à l'honneur. Et, très intéressant, il y a des écrivains, des chanteurs, des affichistes, des BDistes, des artistes en arts visuels, du cirque ou du théâtre qui rendent hommage à la bicyclette à leur manière. Donc, c'est quelque chose à découvrir. J'ai pas encore vu l'exposition, mais ça fait partie de mes plans de vacances pour cet été. Donc, pour plus de détails, on se rend sur le site www.culturepop.qc.ca dans la section exposition. Puis, il y a aussi une petite pub télé qu'ils ont faite et qui est disponible sur le site Internet que je vous suggère de voir. Elle est très charmante.
Je peux faire une petite commande pour peut-être la semaine prochaine ou les semaines à venir. Vous nous avez parlé du pont. De l'autre côté du pont, il y a plein de pistes cyclables qui nous amènent en Estrie, un peu partout au Québec. Ce serait bien qu'on en apprenne un petit peu sur ces... Il semblerait qu'au Québec, on a un réseau superbe de pistes cyclables en campagne.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, je n'irai pas ça, moi.
Ben oui, je pourrais faire un petit cyclotouriste de moi et aller Exactement. Visiter un peu.
Merci, merci Dominique. Est-ce que c'est tout ou s'il y a autre chose?
J'aurais une autre actualité.
Ah, une autre actualité, allez-y.
C'est pour dans quelques mois quand même. Le 22 septembre prochain aura lieu à Montréal, au coin des rues Sainte-Catherine-Union, un die-in. Donc, qu'est-ce qu'un die-in? C'est un événement symbolique, au même titre qu'un sit-in ou un bed-in, revendicateur, médiatisé et à caractère théâtral. C'est une activité de sensibilisation qui se déroule la même journée que la Journée internationale sans voiture. Donc, on demande aux participants de mimer la mort à l'intersection de deux rues à l'aide de faux sang, de bandages, de masques à gaz et puis de tout autre élément qui peuvent être significatifs. Le but de l'initiative, c'est de commémorer les décès, les blessures et les problèmes de santé causés par les véhicules motorisés à des milliers de Montréalaises et Montréalais à chaque année, puis à des millions de personnes dans le monde. Donc, on y participe pour plusieurs raisons. Pour commémorer une presque collision récente avec une voiture, ou même commémorer la mort absurde et puis injuste à vélo ou à pied d'une personne qu'on connaît, pour promouvoir une alternative écologique à l'automobile, pour protester contre la vaste occupation de la majorité de nos espaces publics et communautaires par les véhicules motorisés, et puis pour redonner à l'automobile son rôle premier, qui devrait être d'assumer les déplacements qui sont longs et imprévisibles, tout ça afin de limiter son usage excessif. Puis enfin, on veut donner préscience à l'être humain plutôt qu'à l'automobile dans le développement urbain, ce qui est une excellente chose. Si je vous en parle maintenant et que ça se déroule seulement le 22 septembre, c'est parce que au cours des deux dernières éditions, en 2006 et en 2007, il y a eu 300 participants, ce qui est un chiffre très intéressant. Donc, il y avait 300 personnes qui étaient étendues par terre en plein milieu dans le centre-ville, comme s'ils venaient de se faire frapper par un automobile. Donc, cette année, si on peut écrire ça à notre calendrier et puis qu'on se ramasse, je ne sais pas moi, 500 ou 1000 personnes, ce serait vraiment marquant. Et le site Internet vient d'être mis à jour, donc dieinmontréal.org. D'ailleurs, pour tous les sites Internet que je vous donne, vous pouvez vous rendre sur le site rouleravélo.com. Il y a un onglet CBL où j'ai mis tous les liens pour que vous trouviez là, les sujets dont je parle facilement. Et le Vélib qui célèbre donc son premier anniversaire demain, 15 juillet. C'est une année qui a été marquée par un succès qui est indéniable quand même. Avec le Vélib, les Parisiens ont redécouvert leur ville à un tout autre rythme, celui du vélo, qui est beaucoup plus apaisant que celui de l'auto. Mais il y a eu des problèmes quand même, des accidents, des morts et puis aussi des vols de vélo. Donc, le réseau a été inauguré il y a un an avec 750 stations et 10 648 vélos. Donc, ça, c'était à l'inauguration, ce qui est, comment dire, des chiffres qui font rêver quand on pense que nous, à terme, le réseau montréalais va avoir 300 stations et 2 400 vélos. Peut-être qu'il va y en avoir plus plus tard, là, mais quand même, eux, c'était un début parce que d'ici la fin de l'année, on veut passer à 1 451 stations et 20 600 vélos.
Ça fait du vélo, ça, monsieur?
C'est sûr que la population de Paris est plus élevée que celle de Montréal, mais quand même, ça fait augmenter là-bas le taux de cyclisme de manière très importante. De 2001 à 2007, il y a eu une augmentation de 94% du nombre de cyclistes à Paris. Et comme le Vélib a commencé en juillet 2007, bien, on peut croire que ce nombre a continué vraiment à augmenter. Maintenant, je donne quelques faits sur le Vélib, variés. Donc, il faut être âgé de 14 ans pour avoir accès au service. Avant ça, on ne peut pas l'utiliser. Vélib, c'est une contraction des mots vélo et liberté. Donc, c'est bien français. La société JC Deco a investi 85 millions d'euros, soit 135 millions de dollars canadiens dans l'aventure Vélib et espère récolter des profits en 2012. Donc ça, c'est la compagnie qui a eu le contrat de la ville de Paris pour le vélo en libre service. On peut savoir, ça c'est quelque chose de très pratique, on peut savoir sur Internet à chaque station combien il y a de vélos de disponibles. Et enfin, pour ceux qui s'inquiètent de devoir parcourir des distances trop longues entre chaque station, il y a seulement 300 mètres qui séparent environ là, chacune d'elles.
C'est pas très long ça.
Non, mais on peut franchir la distance qu'on veut. D'ailleurs, je donne quelques chiffres sur le Vélib. Il y a 70 000 locations quotidiennes, chiffre qui peut augmenter à 110 voire 120 000 les journées où il fait beau et lors d'événements spéciaux. En une année seulement, il y a eu 27 millions environ de locations. Donc, c'est un service assez populaire. Pourtant, les gens ne passent que 18 minutes en moyenne, le trajet moyen de 18 minutes seulement. Donc, en fait, c'est comparable à ce que les gens font ici en métro, je pense, pour se déplacer, là, le trajet moyen d'environ 20 minutes. Paris possède un réseau cyclable de près de 400 km, mais 100 de ces kilomètres-là sont des couloirs d'autobus qui sont ouverts aux cyclistes. Donc, c'est peut-être pas vraiment, c'est pas l'idéal pour circuler dans la ville. Il y a 350 employés qui travaillent pour Vélib. 94% des usagers se disent satisfaits du service. Et puis, les voyages effectués à vélo, malgré l'augmentation au cours des dernières années, ne constituent que 2 à 3% du total des déplacements, chiffre qu'on espère voir augmenter, bien sûr, comme partout ailleurs dans le monde. Maintenant, je vais conclure avec quelques points négatifs qui concernent quand même toute l'aventure Vélib. Il y a eu 700 cyclistes qui ont été victimes d'accidents en 2007, soit une augmentation de 37 % par rapport à 2006. Et depuis le lancement du service de vélo en libre-service, il y a eu 3 usagers du Vélib qui sont décédés. Et justement, une des grandes réclamations des usagers du Vélib, c'est des routes, des pistes cyclables qui sont sécuritaires et seulement dédiées au vélo. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes quand même. Il y a beaucoup de circulation automobile à Paris. Et souvent, les camions de livraison se stationnent directement dans les pistes cyclables. Ici, c'est un problème, mais quand même, ça a l'air d'être plus rare quand même. C'est rare qu'on voit un camion ou une auto dans une piste cyclable. Mais là-bas, il paraît que c'est un peu plus courant. Il y a eu 3000 vélos qui auraient été volés et 3000 qui auraient été abîmés. Donc, le double des premières estimations. Et puis ça fait monter les coûts d'opération, veut pas, de la compagnie. Et puis, bon, ça peut faire craindre à long terme une augmentation des tarifs. D'ailleurs, petit fait intéressant, pour encourager les gens à utiliser le Vélib, souvent, mais pas longtemps, la première demi-heure est gratuite. Puis après ça, par contre, les frais augmentent très rapidement. Pour 1h30, je crois que c'est à peu près 3 euros. Pour 20 heures, on a dépassé largement les 100 euros. Donc, on veut vraiment que les gens qui aient beaucoup de circulation, et ça peut justement parfois causer un problème parce que parfois on cherche un Vélib, on arrive à une station, il n'y en a pas. Évidemment, on n'a pas à marcher très, très loin pour trouver une autre station. Mais quand on veut remettre un Vélib, si la station est pleine, on ne peut pas. On ne peut pas les barrer n'importe où, sinon on est facturé. Donc parfois, quand même, aller 300 mètres plus loin, faire quelques stations pour remettre un vélo, ça peut être dérangeant. Donc espérons qu'on n'ait pas ce problème-là ici, mais c'est difficile de prévoir. Et donc, pour plus d'informations, bien, je vous invite à consulter le site roulerávélo.com. J'ai mis plus de détails encore, plus de statistiques pour votre plus grand plaisir, j'en suis certain.
Pour tout savoir, merci Dominique Raté.
Merci.